une fois par mois, vous écoutez Billets d'Afrique, une émission où on ne parle pas que d'Afrique.
Regarde comme au fil des siècles cette histoire se répète. C'est toute une légion qui se lance à notre conquête.
Une émission où l'on parle de colonialisme. Parce que ça manque dans le paysage.
Territoire occupé.
Parce que si on veut que le monde change, il va falloir changer les règles du jeu.
Comment veux-tu qu'on s'appelle lorsque leur troupe s'y honorerait?
Billets d'Afrique aujourd'hui vous propose quelques brèves et puis des actualités. Ici et là en Afrique, la responsabilité des entreprises françaises, du gouvernement français, la francophonie et un point sur le Sahara occidental. Ce sera peut-être un petit peu indigeste, mais l'actualité n'est-elle pas indigeste ? Renault, Cobalt irresponsable. Depuis le 21 juillet, malgré les risques majeurs de répression, les 254 mineurs de Bouazer, au sud du Maroc, travaillant pour Top Forage, sous-traitant de la multinationale royale d'extraction Managem, sont en grève illimitée. Non-paiement des cotisations sociales, fraude à l'ancienneté, conditions de travail dangereuses, entre autres griefs persistants depuis des années, s'ajoutant aux salaires non versés depuis le 1er juin 2024. Dès juillet 2023, une enquête conjointe de Célia Isoard, pour Reporter, d'un consortium d'investigation réunissant plusieurs médias allemands et du journal marocain en ligne Awamish, avait révélé au public ces violations de la législation. Mais elle décrivait aussi l'énorme pollution provoquée par l'exploitation continue depuis les années 1930 de la mine, produisant du cobalt et de l'arsenic dont l'extraction a gravement contaminé les terres et les eaux avoisinantes. Les oasis meurent les unes après les autres, les sources ne sont plus potables quand elles coulent encore. Car pour traiter le minerai extrait, la Managem pompe allègrement l'eau des nappes phréatiques environnantes. Tout cela n'a pas empêché en 2022 Renault France, comme son concurrent allemand BMW avant lui, de passer contrat avec la Managem pour se procurer à partir de 2025 le cobalt nécessaire aux batteries destinées à la production de ses véhicules électriques. Et le constructeur automobile Renault de continuer à se vanter d'être irréprochable en matière de respect des droits humains et de l'environnement. À Thiaroy, au Sénégal, mort pour la France. L'Office national des anciens combattants a attribué le 18 juillet la mention « mort pour la France » à 6 des tirailleurs massacrés à Thiaroy le 1er décembre 1944. Cette décision est une première avancée. 80 ans après les faits, l'armée reconnaîtrait-elle enfin sa responsabilité ? Ce jour-là, ce sont en effet plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de tirailleurs réclamant le versement de leurs soldes avant d'être démobilisés, qui ont été fauchés par les mitrailleuses françaises. Mais cet octroi excessivement tardif soulève bien des questions. Pourquoi ces soldats ne sont-ils plus considérés comme des mutins ? Serait-ce que dans leur dossier ne contenait aucun acte de mutinerie comme prétendu ? Les archives sont très opaques et certaines même inaccessibles. Et pourquoi n'offrir cette forme de réhabilitation qu'à 6 tirailleurs et pas à toutes les victimes de ce crime colonial ? Le plus choquant étant sans doute ce jeu malsain sur les mots pour occulter la réalité. Ces hommes ne sont pas morts pour la France, mais ont bien été tués par elle. Un glissement langagier qui permet de réécrire un passé décidément dur à assumer. Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, s'en est d'ailleurs ému fin juillet. « Je tiens à rappeler à la France qu'elle ne pourra plus ni faire ni compter seule ce bout d'histoire tragique. »
Rakhi de nari li premo jaligo, kacha hari de.
Répression totale en Ouganda ou totale et la répression en Ouganda. Le désastre économique, humain et environnemental que constitue le méga projet pétrolier de Total Energy associé au chinois CNOOC, forage de 419 puits et construction du plus long oléoduc chauffé au monde, 1443 km, n'en finit pas de susciter des mobilisations dans les deux pays concernés, l'Ouganda et la Tanzanie. Notamment par de nombreuses manifestations des deux côtés de la frontière en août et septembre. Face à ce rejet populaire, les régimes en place, se faisant les auxiliaires de ce poids lourd de l'économie française qui est Total, déchaînent la répression. Concernant l'Ouganda, la Fédération internationale pour les droits humains comptabilisait ainsi dans son communiqué du 6 septembre au moins 81 arrestations et détentions depuis mai 2024, dont 72 pour le seul mois d'août, et même un cas de torture et de détention au secret. Violence contre les militantes et militants, mais aussi violence contre la population locale, selon l'ONG Climate Rights International, dans un rapport accablant publié début septembre. Expulsion forcée, compensation inadéquate ou inexistante pour les terres et autres biens, coercition et intimidation dans le processus d'acquisition des terres, perte des moyens de subsistance, baisse du niveau de vie et appauvrissement, violation des droits du travail ou encore violence sexiste ou sexuelle. Pour rappel, 5 organisations, aux côtés de 26 Ougandaises et Ougandais, impactées par le projet, ont attaqué en justice Total Energy pour exiger des réparations pour les violations des droits humains entraînées par le projet. Gacha harite harite rakhte na dil pe moya rakhte na dil pe moya gacha harite bhal kutile La francophonie en question. Rassemblant 88 États et gouvernements, l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, promeut à la fois la langue française et la diversité culturelle et linguistique, une idée généreuse permettant, suppose-t-on, la communication des peuples et le partage des cultures. Qui pourrait être contre ? Le sommet de l'OIF, organisé les 4 et 5 octobre en France, à Villers-Cotterêts, était consensuel. Certes, personne n'ignore que l'histoire de la diffusion du français est intimement liée au passé colonial de la France et à ses conquêtes sur tous les continents. Mais beaucoup ignorent que son intérêt stratégique est théorisé dès la fin du XIXe siècle. Le géographe Onésime Reclus, qui forge alors le néologisme francophonie, prédit que le français permettra d'assurer une présence durable en Afrique. Il faut, explique-t-il, assimiler nos Africains de quelque race qu'ils soient en un peuple ayant notre langue comme langue commune, car l'unité du langage entraîne peu à peu l'union des volontés. Surtout dans les milieux supposés informés, on cultive toujours le mythe que l'OIF serait le résultat d'une initiative des ex-colonisés, une légende construite dès le lendemain des indépendances. La francophonie est une grande idée, explique le général de Gaulle en 1963, mais il ne faut pas que nous soyons demandeurs. Le même confie à un proche en 1966. Maintenant que nous avons décolonisé, notre force dans le monde repose sur notre force de rayonnement, c'est-à-dire avant tout sur notre puissance culturelle. La francophonie prendra un jour le relais de la colonisation. La France peut compter sur ses amis pour porter l'idée, comme le Sénégalais Léopold Sédar Senghor. En réponse à cette demande, en 1970 est créée l'Agence de coopération culturelle et technique, ACCT, ancêtre de l'institution rebaptisée OIF en 2006. Entre autres objectifs, celle-ci dit promouvoir la démocratie et les droits humains, mais ses observateurs sont étonnamment myopes lorsqu'ils sont invités à assister à des scrutins dans des pays amis de la France. L'OIF avalise de fait chaque farce électorale au Togo, au Congo, en passant par le Rwanda, pays dont est issu son actuel secrétaire général, élu grâce à Paris. Quant à son réseau de formation pour les opérations de paix, il diffuse une méthode d'apprentissage du français spécifiquement conçue par les casques bleus appelée « En avant », qui vise à favoriser ce qu'on appelle l'interopérabilité entre armées francophones, donc leur capacité à travailler ensemble. Cela entretient opportunément une culture militaire favorable à la France et à ses fabricants d'armes au sein des appareils sécuritaires concernés. Confronté à une contestation populaire croissante de l'action de la France en Afrique, Emmanuel Macron a repris à son compte une idée rabâchée par les rapports parlementaires dédiés aux relations franco-africaines, promouvoir la francophonie pour resserrer les liens. En 2017, à Ouagadougou, il déclarait vouloir une francophonie forte, rayonnante, qui illumine et qui conquiert. Une terminologie assumée 5 ans plus tard au sommet de l'OIF, où il expliquait que la francophonie était tout à la fois un espace de résistance et de reconquête. Il a raison, la francophonie n'est pas seulement une idée tout droit issue de notre histoire impériale, elle cristallise une mythologie coloniale persistante, où Paris est le phare qui doit éclairer le monde. Texte de Thomas Borel. রাখিতে না দিলে প্রেম হারিতে রাখিতে না দিলে প্রেম রাখিতে না দিলে প্রেম হবি যদি পাকাহারি La coopération française au service de la répression en Guinée. Tandis que la junte militaire en Guinée accroît la répression contre les voix dissidentes, la France se distingue par son silence total. Comme d'habitude, coopération sécuritaire et intérêts stratégiques priment sur le respect des droits humains. En septembre 2021, le colonel Mamadou Doumbouya, commandant des forces spéciales, renversait le président Condé et se faisait proclamer président de transition de Guinée. Parce qu'il mettait un terme à la dérive autoritaire et sanglante d'Alpha Condé, le coup d'État a d'abord été salué par l'opposition comme par la population. Mais les promesses de retour à un régime démocratique ont fait long feu, et plus l'on se rapproche du terme annoncé de la transition, fin 2024, plus la répression s'intensifie. Par les menaces, les mesures liberticides, les arrestations arbitraires, les militaires ont poussé de nombreux opposants et les principaux responsables politiques à l'exil et ont muselé les médias. Dans cette situation particulièrement difficile, les résistances existent toujours, animées notamment par le Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, créé lorsque Condé cherchait à passer en force pour obtenir un troisième mandat anticonstitutionnel. En juillet 2022, le FNDC et plusieurs partis politiques ont réussi à organiser dans la capitale d'importantes manifestations contre la junte, malgré les interdictions officielles. En février dernier, une grève générale appelée sur des mots d'ordre démocratique et sociaux a permis d'obtenir la libération d'un journaliste syndicaliste. Mais la répression rend les mobilisations de plus en plus difficiles. Un rapport d'Amnesty International paru en mai 2024, Une jeunesse meurtrie, recense au moins 47 personnes tuées et un plus grand nombre encore gravement blessés par les forces de l'ordre depuis le coup d'État. Si certains partis font profil bas en vue d'un hypothétique scrutin à venir, les militantes et militants du FNDC ont continué à dénoncer publiquement les agissements des militaires au pouvoir. En juillet, la répression est montée d'un cran. Oumar Sylla Diphoni Kemenge et Mamadou Biloba, militants du FNDC et de Tournons la page Guinée, ont été enlevés par des forces spéciales et des gendarmes alors qu'ils menaient campagne contre la censure des médias. Ils sont depuis portés disparus. Un de leurs camarades, arrêté puis relâché, fait état de torture. En juillet, les épouses des deux militants ont déposé plainte en France pour disparition forcée contre le colonel Doumbouya. Celui-ci, ex-officier de la Légion étrangère française et marié à une gendarme française, bénéficierait en effet de la double nationalité. Les épouses ont continué ensuite à interpeller publiquement les autorités guinéennes qui nient l'enlèvement des activistes. L'affaire a été dénoncée par le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. L'ambassade des États-Unis en Guinée s'est alors dite profondément préoccupée par la disparition et le bien-être des deux hommes, de même que l'Union européenne, le Royaume-Uni, mais pas la France. La tribune, co-signée par plusieurs syndicats et ONG, « La Guinée s'enfonce dans la répression et la France regarde ailleurs », paru dans Libération le 7 septembre 2024, dénonce la complaisance que la France entretient une fois de plus avec un gouvernement autoritaire en Afrique et l'appelle à communiquer de manière transparente sur tous les aspects de sa coopération actuelle avec la Guinée et suspendre tout appui susceptible de participer à la répression des populations, notamment sa coopération sécuritaire. Après le coup d'État, Paris a en effet renforcé sa coopération militaire dans le pays. Outre celle menée par la Direction de la coopération de sécurité et de défense, DCSD, et les programmes d'appui à la gendarmerie, la France forme aussi les forces spéciales guinéennes à la lutte contre le terrorisme depuis 2022 et leur nouveau chef a, comme Doumbouya, été formé à l'école de guerre de Paris. Selon Africa Intelligence, le 26 juillet 2024, l'attaché de défense français à l'ambassade de Conakry aurait même été exceptionnellement maintenu un an de plus à son poste en raison de la relation de confiance qu'il a su nouer avec le président Doumbouya. Consciente qu'un affichage trop voyant aux côtés des forces de répression pourrait nuire à l'image de la France dans le pays déjà singulièrement dégradé dans les pays voisins, le Quai d'Orsay a recommandé à une quinzaine de coopérants de sécurité en fonction en Guinée de limiter les apparitions publiques aux côtés de leurs homologues locaux. C'est dans Africa Intelligence. Mais pas question d'émettre publiquement la moindre critique contre la répression du régime en place, courtisé par la Russie et la Chine. Les autorités françaises, par la voix de leur ambassadeur Marc Fombostier, se sont jusque-là contentées de mettre en valeur des projets de coopération dans le domaine sportif, à l'occasion des JO, où était invité comme d'autres chefs d'État africains le colonel Doumbouya. Le 7 juin, l'ambassadeur a par exemple annoncé la création d'une école de cirque. Il y animera sans doute l'atelier clown, mais pas certain que cela amuse les Guinéennes et Guinéens. Texte de Raphaël Granvaux. Il y a foison d'informations sur le Sahara occidental en ce moment ou depuis quelques mois. Alors, où est-ce ? Qu'est-ce qui se passe ? Le conflit au Sahara occidental est l'un des plus vieux d'Afrique, un interminable bras de fer entre le Maroc et le Front Polisario auquel l'ONU peine à mettre un terme. Où se situe le Sahara occidental ? Le Sahara occidental est une bande désertique qui s'étend sur plus de 260 000 km² au nord-ouest de l'Afrique, entre le sud du Maroc et le nord de la Mauritanie. Ancienne colonie de l'Espagne qui a établi son protectorat en 1884, elle bénéficie d'une large façade maritime, aux eaux poissonneuses et de sols riches en phosphate. Quelles sont les origines du conflit actuel ? Par les accords de Madrid signés en 1975, les Espagnols cèdent le Sahara occidental au Maroc et à la Mauritanie et quittent le territoire. Mais un mouvement indépendantiste sahraoui dénommé Front Polisario, c'est-à-dire Front pour la libération de Saghia El Hamra et de Rio El Oro, revendiquait la souveraineté de ce territoire. Il proclame la République arabe sahraoui démocratique, la RASD, en 1976. En exil, la RASD localise son gouvernement et ses partisans à Tindouf, en Algérie, et elle entre en guerre contre les forces marocaines et mauritaniennes. La Mauritanie signe un accord de paix avec la RAS en 1979. En réaction, le Maroc annexe la partie mauritanienne du Sahara occidental. Rabat construit dans les années 80 un mur de sable de 2720 km du nord au sud du Sahara occidental. Il est achevé en 1987 et gardé militairement par 100 à 160 000 soldats marocains, selon les sources. Le Maroc occupe militairement la partie ouest, qui correspond à 80% du territoire. L'ONU finit par intervenir et propose un plan de paix qui prévoit la tenue d'un référendum d'autodétermination, soit l'indépendance sous l'égide du Front Polisario pour les Sahraouis, soit l'intégration au Maroc. Les deux parties acceptent la proposition et un cessez-le-feu est signé en 1991. Celui-ci n'a jamais abouti. Le Sahara occidental est inscrit depuis 1963 sur la liste des territoires non autonomes dont la colonisation n'est pas terminée, établie par l'ONU. La RAS fait partie de l'Union africaine depuis 1982. À son arrivée dans l'organisation, le Maroc s'est retiré avant de le réintégrer en 2017. L'ONU et l'Union africaine reconnaissent le Polisario comme représentant du peuple sahraoui pour tous les aspects politiques et économiques avec capacité d'action en justice. Qui vit au Sahara occidental ? Le Maroc a exercé une forte répression sur les Sahraouis et a forcé une grande partie d'entre eux à quitter leurs terres pour s'exiler dans les camps de réfugiés aux conditions très précaires dans le désert algérien. Parallèlement à l'exode des Sahraouis, Rabat a mis en place une politique de colonisation pour inciter les Marocains à s'installer au Sahara occidental. Selon les sources, la population marocaine est actuellement 3 ou 4 fois plus nombreuse que la population sahraoui dans la partie occupée du territoire. Quelle est la situation aujourd'hui ? Depuis 31 ans et la signature du cessez-le-feu, une force de maintien de la paix, la MINURSO, mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental, est sur place. Plusieurs émissaires des Nations Unies se sont succédés en vain pour faire aboutir le processus de paix et concrétiser le référendum d'autodétermination. Le Maroc refuse catégoriquement de respecter son engagement et propose à la place un plan d'autonomie où Rabat déléguerait des pouvoirs à la RAS, mais celle-ci resterait sous sa souveraineté. Ce qui ne respecte pas le droit à l'autodétermination garanti par les Nations Unies. En novembre 2020, le Maroc envoie des troupes militaires dans la zone tampon pour mettre fin à une manifestation de civils sahraouis sur une route commerciale qui relie le Maroc à la Mauritanie. En réaction, les indépendantistes décrètent que le cessez-le-feu est brisé et la guerre reprend le long du mur entre le Maroc et le Front Polisario. C'était quelques grandes lignes pour une compréhension du contexte. Pour ce qui est de l'actualité, elle est double. Depuis les années 2000, le Maroc et l'Union européenne signent des accords d'association de commerce, d'aviation et de pêche, dont la zone d'application comprend le Sahara occidental. Le Polisario, après avoir diplomatiquement protesté et constaté l'inutilité de la démarche, a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. En octobre 2024, dans un jugement en appel et pour la 10e fois, la Cour de justice de l'Union européenne a répété que le Sahara occidental est exclu des accords Union européenne-Maroc. Cela pour plusieurs raisons. Le Sahara occidental et le Maroc sont deux territoires séparés et distincts. Le Maroc n'a aucune souveraineté sur le territoire non autonome du Sahara occidental. L'utilisation des ressources naturelles renouvelables ou non du Sahara occidental est conditionnée à la consultation et l'accord explicite du peuple sahraoui via son représentant, le Front Polisario, conformément à son droit à l'autodétermination. Les accords Union européenne-Maroc ne pouvant couvrir le territoire du Sahara occidental, tout ce qui a été fait jusque-là est illégal. Un autre jugement a été rendu ce 4 octobre concernant les produits agricoles du Sahara occidental. La Cour européenne s'est prononcée à la demande du Conseil d'État français qui avait référé en juin 2022 une affaire portée par la Confédération paysanne. Le syndicat des agriculteurs demandait des éclaircissements sur deux questions. La principale, est-ce que les produits du Sahara occidental doivent être étiquetés comme provenant du Sahara occidental plutôt que du Maroc pour être conformes aux lois et règlements de l'Union européenne ? Le territoire du Sahara occidental est distinct de celui du Maroc et c'est un territoire douanier au sens du droit de l'Union. Toute autre indication serait susceptible de laisser les consommateurs penser que ces melons et ces tomates proviennent d'un autre lieu que le territoire sur lequel ils ont été récoltés, indique un communiqué de presse de la Cour dans cet arrêt. L'indication du pays d'origine qui doit figurer sur les melons et les tomates en cause ne peut désigner que le seul Sahara occidental puisque ces produits sont récoltés sur ce territoire. C'est écrit et c'est mis en gras. Les marques incriminées que l'on trouve en France sont notamment Azura, Idyl, Les Domaines. L'origine Sahara occidental doit depuis le jugement être indiquée sur les fruits et légumes, mais aussi sur les produits de la pêche. Ça doit être indiqué sur les boîtes et dans les grandes surfaces sur les étiquettes. Les consommateurs doivent en effet, selon la justice européenne, pouvoir décider d'acheter ou non des produits provenant des territoires occupés et commercialisés par le colonisateur. À la lumière de ces éléments de justice européenne qui s'inscrivent dans le droit international, les dernières positions du président de la France laissent perplexe. En juillet 2024, Emmanuel Macron déclarait dans un courrier au roi du Maroc que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine, niant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Et puis, de nouveau ces derniers jours, lors de la visite d'État au Maroc, il répétait en substance la même chose, encourageant les entreprises françaises à travailler, s'impliquer au Maroc, investir et au Sahara occidental. Voilà des paroles qui assurément flattent la monarchie marocaine et réchauffent les relations diplomatiques. Il faudra néanmoins que les services juridiques des entreprises étudient très attentivement les contrats miroités au soleil des exonérations de taxes en vigueur au Sahara occidental. Manœuvre marocaine pour y attirer les colons et investisseurs. En droit pénal français, en droit européen et en droit international, le territoire du Sahara occidental est non autonome. S'y impliquer commercialement en lien avec le colonisateur soutient la colonisation et ses crimes. Cela dans une zone de guerre. Nous venons de parler des actions juridiques des Sahraouis pour le respect de leur droit à l'autodétermination sur leurs terres et leurs ressources. Au quotidien, le peuple survit dans les campements de réfugiés ou sous la répression de la colonisation et résiste de multiples façons, dont artistiques. Intifada est le mot utilisé dans la partie occupée du territoire pour désigner les grandes manifestations de résistance aux colonisateurs et de revendication du respect de leurs droits à l'autodétermination. Pour finir ce billet d'Afrique, nous écoutons la chanteuse sahraoui Aziza Brahim dans la chanson Intifada.
Sara.